Les matins de France Culture.
La revue de presse internationale, bonjour Thomas Cluzel.
Bonjour Guillaume.
Et ce matin, pas de trêve.
Oui, avec l'ouverture ce matin des JO d'hiver, début de ce que l'on appelle communément la trêve olympique, cette période sacrée qui remonte à la Grèce antique, fait même l'objet aujourd'hui d'une résolution des Nations Unies à chaque Olympiade. Et c'est aussi, rappelle The New York Times, l'argument massue que la Corée du Sud avait avancé lorsqu'elle s'était portée candidate il y a 7 ans pour organiser la compétition en proposant les Jeux de la paix. La fête devait célébrer la réconciliation de la péninsule coréenne. Et puis, les plus cyniques rappelleront que c'était là également un point positif pour le si souvent contesté CIO qui, sans le clamer trop fort, rêve toujours de se voir attribuer justement le prix Nobel de la paix. Enfin, sur le plan diplomatique, cette fois-ci précise de son côté le magazine Slate, Kim Jong-un en a lui aussi profité pour se donner une sorte de joli rôle inattendu après avoir agi pendant des mois comme un dictateur illuminé prêt à déclencher le feu nucléaire. Mais chassé le naturel, il revient au galop tandis que la Corée du Nord et la Corée du Sud doivent défiler aujourd'hui main dans la main. Hier, c'est un tout autre type de parade qui s'est déroulé à Pyongyang, un défilé militaire a priori des plus classiques, du moins jusqu'au passage des missiles. D'où cette photo volontairement provocatrice à la une ce matin du quotidien britannique The Independent. Sous ce titre, les jeux commencent, on y voit les fameux véhicules transportant des missiles avec cette légende. Pyongyang a monté hier son propre spectacle destiné à étaler sa puissance militaire, un moyen pour le dirigeant nord-coréen de galvaniser le sentiment patriotique, note pour sa part la chaîne américaine CNN, mais aussi et surtout un coup bas qui vient de facto saper les efforts de pacification consentis par son voisin du Sud.
Et puis ce matin, Thomas, toujours pas de trêve en Syrie.
Non, loin d'être épuisée, la guerre en Syrie s'intensifie au contraire sur plusieurs fronts. Analyse ce matin à The New York Times, deux zones essentiellement subissent aujourd'hui les attaques incessantes des forces gouvernementales soutenu par la Russie, l'Iran et le Hezbollah libanais. Tout d'abord, le bastion rebelle situé dans la banlieue ouvrière de Damas est connu sous le nom de Ghouta orientale, où plus de 220 civils ont péri ces 4 derniers jours. Et puis la province d'Idlib, essentiellement rurale, située elle à la frontière nord-ouest du pays. La correspondante du journal le rappelait que pendant des années, la Syrie n'a pas été seulement une vaste guerre régionale, mais un enchevêtrement de conflits séparés. Or, si une grande partie du monde a acclamé l'an dernier l'effondrement du califat, cette victoire a ouvert la voie à la résurrection des autres conflits sous-jacents de la guerre, et en particulier toutes ces batailles donc qui existaient avant la montée de Daesh contre tous ces groupes rebelles qui cherchent à déstabiliser le président Bachar el-Assad. Et le quotidien américain en concluant, depuis la déroute de l'EI, on croit de plus en plus à tort que la guerre syrienne touche à sa fin, mais au lieu de cela, le carnage atteint un nouveau sommet. De son côté, la BBC rapporte, elle, que les États-Unis ont mené mercredi des frappes aériennes d'une ampleur sans précédent contre les forces pro-gouvernementales syriennes, attaque qui aurait fait 100 morts parmi les soldats du régime de Bachar el-Assad. Et puis toujours s'agissant de la Syrie, 2 djihadistes britanniques du groupe État islamique ont été capturés en Syrie par une force kurde alliée de Washington. C'est du moins ce qu'a rapporté hier un responsable militaire américain. De son côté, le ministère britannique des Affaires étrangères a refusé de confirmer l'information. Toujours est-il que les 2 hommes sont à la une ce matin de la presse britannique, à l'instar du Daily Telegraph ou de son confrère I, avec ce titre d'ailleurs étrange, les 2 derniers Beatles enfin capturés. En réalité, les prisonniers occidentaux avaient en effet donné ce surnom de Beatles à leur geôlier en raison de leur accent britannique. Ces 2 djihadistes faisaient partie d'une cellule d'exécution avec 2 autres britanniques dont l'un est mort et l'autre est aujourd'hui détenu en Turquie. Ils auraient été responsables de la détention et de la décapitation d'environ 20 d'otages. Enfin, à noter dans les colonnes du Temps ce matin cette contribution d'un enseignant chercheur à l'université de Harvard pour qui l'Arabie Saoudite, qui garde les lieux saints de l'islam, peut théologiquement vaincre le groupe terroriste Daesh. Beaucoup de gens pensent à tort, dit-il, que la source de l'EI est l'Arabie Saoudite parce que les deux pratiquent une version de l'islam appelée salafisme. Sauf que le salafisme pratiqué par Daesh n'a aucune base théologique. Pourquoi ? Parce que ce groupe est la continuité d'une secte cruelle connue sous le nom de Karjites qui sont sortis de la communauté musulmane durant le règne du 4e calife. Ce faisant, l'adhésion à l'idéologie karjite se double d'un acte de désobéissance qui anéantit effectivement leurs prétentions au salafisme. Et puis, le 2e contentieux entre l'Arabie Saoudite et l'organisation État islamique est leur opposition totale concernant le califat, un empire islamique dirigé par un leader suprême. Sachant que l'Arabie Saoudite est l'épicentre de l'islam, la route de Daesh doit donc impérativement passer par le royaume et son peuple. Voilà pourquoi, toujours selon ce chercheur, seule une coalition menée par l'Arabie Saoudite peut véritablement vaincre Daesh en le délégitimant aux yeux du plus grand nombre de musulmans. Alors lorsque l'EI est apparu pour la première fois en Syrie, c'était en 2011, le roi saoudien Abdallah avait bien essayé de galvaniser le monde pour aider l'opposition syrienne modérée, sauf qu'à l'époque, le monde a fait la sourde oreille.
Et puis enfin, pas de trêve ce matin aux États-Unis, Thomas.
Non, pour la deuxième fois en trois semaines, rappelle le quotidien USA Today, le gouvernement fédéral se retrouve ce matin en situation de shutdown. Les parlementaires avaient jusqu'à hier soir minuit pour adopter l'accord, pourtant trouvé quelques jours plus tôt par les chefs de file républicains et démocrates. C'est finalement l'obstruction du sénateur républicain Rand Paul, hostile à un accroissement des déficits publics, qui a retardé les travaux au Sénat, lequel a fini par ajourner donc sa séance avant l'échéance. D'où ce commentaire ce matin à lire sur le site de Politico, reprenant les déclarations d'un sénateur républicain. Le shutdown le plus stupide de tous les temps, encore plus stupide que le nom du nouveau bébé Kardashian, plus bête qu'une porte moustiquaire sur un sous-marin, et encore plus stupide que le gamin qui n'a pas reconnu Justin Timberlake au Super Bowl.
Mais c'est quoi le nom du nouveau bébé Kardashian ?
Stormy.
Ah, bon, c'est Stormy Weather, c'est pas mal. Merci beaucoup Thomas Cluzel. On retrouve votre revue de presse internationale sur le site de France Culture, franceculture.fr.